Vous écoutez
RMC. RMC Estelle Midi.
13h04 sur RMC. On va s'intéresser tout de suite aux chiffres du jour. Selon le baromètre Odoxa, 59% des Français souhaitent réduire les aides sociales. C'est une hausse de 7 points en un an des Français, Rémi, qui souhaitent également abaisser le nombre de fonctionnaires, le tout pour réduire notre déficit public.
Ouais, et les aides sociales en France, c'est vrai que ce n'est pas rien. On en a une idée très précise grâce à la dernière étude réalisée par la direction des statistiques du ministère du Travail. En 2022, la France a consacré près de 849 milliards d'euros aux dépenses de prestations sociales, soit 32,2% de notre produit intérieur brut. Pour la 7e année consécutive, le pays occupe le premier rang européen en matière de dépenses sociales, des prestations françaises qui s'élèvent en moyenne à 12 550 euros annuels par habitant, dont 5 550 euros liés au risque vieillesse survie, on appelle ça comme ça, hein, retraite minimum vieillesse et prévoyance, et 4 700 euros liés au risque santé. Les autres prestations, elles sont moins coûteuses, qu'elles soient liées à la famille, 850 euros, l'emploi, 700 euros, la pauvreté, l'exclusion, 500 euros, ou le logement, 250 euros. Enfin, les prestations du risque emploi, là aussi c'est le terme qui est usité, elles ont diminué fortement, moins 20,7% en 2022, conséquence de la baisse du nombre de chômeurs, mais également de l'entrée en vigueur fin 2021 de la réforme de l'assurance chômage, qui a abaissé les montants versés et durci les conditions d'ouverture des droits. Et ça, c'est en 2021, puisque ces chiffres, je vous le rappelle, c'est les derniers chiffres, ça date de 2022. Et une réforme de l'assurance chômage, il y en a une autre qui est en cours.
Alors, 6 Français sur 10 en faveur de la réduction des aides sociales. D'accord, pas d'accord, Fred Hermel.
Pas d'accord. Moi, je me souviens que j'ai été bénéficiaire des aides sociales. Moi, j'étais boursier, j'étais en résidence universitaire, j'ai touché les APL, etc. Aujourd'hui, je cotise beaucoup pour plein d'aides sociales que je ne touche pas. Moi, je ne vois pas pourquoi j'en priverais des gens alors que j'en ai beaucoup profité moi-même.
Parce que ça coûte cher.
Oui. Par contre, il faut rationaliser. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un petit peu open bar, pour parler en anglais, je n'aime pas ça, mais j'aime bien cette expression. J'ai l'impression qu'on donne beaucoup à beaucoup de gens qui ne le méritent pas. On donne un peu n'importe qui.
Et mais donc, il y a des critères.
Oui, mais je trouve que les critères, ils sont facilement contournables, qu'il y a une certaine gabegie. De la même manière qu'il faut réduire le train de vie de l'État, et je suis le premier à le dire, il faut réduire le train de vie, il faut rationaliser le train de vie de tout ce qui est les prestations sociales. Le social, c'est le premier budget de l'État en France. Hein, c'est
vraiment. D'accord, mais qu'est-ce que tu enlèves comme aide?
C'est pas d'enlever des aides. C'est-à-dire que il faut peut-être, on va dire clairement, par exemple, je trouve que les aides non contributives, c'est-à-dire quand il n'y a pas de cotisation, doivent être réservées aux Français, par exemple. Si on peut pas arriver d'un pays étranger et du jour au lendemain bénéficier d'aides sans avoir cotisé.
Ça se passe pas comme ça, tu le sais très bien.
Oui, mais enfin, il y a un délai.
C'est la santé.
Il y a un délai.
C'est la santé. Le sans-papier qui. Mais d'accord.
L'AME, c'est un milliard.
Tu vas le laisser mourir.
C'est pas grand-chose.
Ok, donc très bien. Je te parle des logements. Je te parle des logements sociaux. Je te parle plein de choses. Donc moi, je suis pour qu'il y ait une certaine rationalisation. Parce que ce qui va se passer, si on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui avec toute cette gabegie, c'est que ça va disparaître pour l'ensemble des gens. Et moi, je ne veux pas ça. C'est parce que je suis un homme de gauche au fond de moi-même et depuis toujours que je suis pour un État fort avec des aides sociales fortes et aider les plus faibles qu'il faut rationaliser et pas donner à tout le monde.
Ouais, ce que tu dis, c'est l'AME, en fait, c'est l'aide médicale.
Non, c'est pas que l'AME, c'est
l'État.
Regarde, par exemple, aujourd'hui dans les logements sociaux, il y a beaucoup beaucoup d'étrangers, par exemple, qui sont dans les logements sociaux.
Évidemment.
Qui ne sont pas sous UQTF pour avoir un logement social.
Non, mais.
Oui, mais c'est des réfugiés politiques,
c'est l'immigration légale.
Même si légal, mais excuse-moi.
Des gens qui ont fui des dictatures,
c'est-à-dire que des
gens qui ont fui la mort.
Quel que soit le pays d'origine de la personne qui cotise, mais elle doit avoir 100% des prestations sociales comme un Français. Par contre, les gens qui ne cotisent pas, je pense qu'il faut réserver ça aux Français.
Pierre Rondeau, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, il y a trop d'aides sociales en France?
Je pense que 6 Français sur 10 sont ingrats. Sont incultes, n'ont pas conscience de la force de l'État-providence français. Dire que si Français sur 10 dire qu'il y a trop de prestations sociales, alors que eux-mêmes très certainement en ont profité, soit de façon directe ou indirecte, l'école de la République, même à minima les routes, la télévision, vous regardez la RMC actuellement, on a la TNT gratuite, la radio, les fréquences, les hôpitaux, on a tous été vaccinés gratuitement, testés gratuitement, et on en est aujourd'hui à dire qu'il y a trop de prestations sociales. Je trouve ça, mais ingrat de leur part. Alors certes, oui, c'est peut-être mal géré. Certes, il y a des effets de seuil. Certes, l'imposition est mal faite avec les cotisations progressives, dégressives en fonction des salaires. C'est mal réfléchi. Et je suis le premier à le dénoncer. Quand vous êtes, quand on parle de smicardisation de la France, parce que le SMIC est moins coûteux en termes de cotisations, il y a une incitation à embaucher au SMIC et à ne pas valoriser les bas salaires au-dessus du SMIC. Oui, c'est vrai. C'est mal fait, mal réfléchi, mal amené. Et il y a la question, je rejoins Fred là-dessus, d'une forme de rationalisation à avoir. Mais dire qu'il y a trop de prestations sociales, non mais je veux dire, on en profite tous. Oui, ok, la France est endettée. Oui, d'accord, la France, il y a beaucoup de prestations sociales, il y a beaucoup d'impositions, mais il y a des effets de seuil qu'il faut corriger, je suis le premier à le dire. Mais merci d'avoir cet état-providence. Merci d'avoir cet état social qui permet d'assurer à ce qu'on n'ait pas un niveau d'inégalité équivalent à ce qu'il y a aux États-Unis, en Angleterre ou en Allemagne. En Allemagne, le taux de pauvreté, il est supérieur à 20%. Ah oui, très bien, on peut vouloir le modèle allemand avec des cotisations faibles, un taux de chômage faible, mais des salaires à 400 euros. Très bien, allons-y. Allons vers une forme de précarisation de l'emploi parce qu'on veut payer moins d'impôts, on veut libéraliser, on veut déréguler. Non mais on peut faire des comparaisons. Oui, la France est le premier pays en termes de fiscalité, en termes d'impôts. Mais le taux de pauvreté n'est que de 12%.
Oui, sauf que j'ai pas l'impression.
On n'a pas payé les tests. Okay, on n'a pas payé les vaccins.
J'ai pas l'impression qu'on aille si bien que ça. Tu vois ce que j'ai... Et que les gens qui nous appellent.
Mais faites des comparaisons, faites de la pédagogie. Mais allez voir ce qui se passe ailleurs. Allez voir les Américains. Allez voir les Anglais. Pierre. Allez demander à un Anglais pauvre comment il vit par rapport à un Français pauvre.
Pierre, nous, quand on a au téléphone, et Dieu sait qu'on les a souvent, ces coups de fil, de personnes qui gagnent 1800 euros par mois et qui vous disent je ne m'en sors pas parce que tu l'as dit, les effets de seuil, je ne touche aucune aide, et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a, c'est pas une majorité, mais tu peux te retrouver au chômage avec des aides, et le fait que tu n'aies plus à prendre ta voiture, finalement, pour aller au travail, le fait que tu n'aies plus besoin de garde pour tes enfants, etc., et ça fait que ton reste à vivre est parfois plus élevé que quelqu'un qui travaille. C'est ça aussi qui fait que, pour certains Français, il y a trop d'aides sociales. C'est parce que, justement, ils te disent, mais ça sert à quoi que je bosse?
Mais en fait, c'est la pédagogie qu'il faut avoir, parce que j'en bénéficie directement.
Je suis désolé, Pierre, c'est pas en disant en Australie, voilà comment ça se passe,
non, ou même
en
Allemagne. Mais en France.
En Allemagne.
En France.
Mais c'est pas en disant ça à quelqu'un, je veux dire, qui bosse comme un dingue et qui n'arrive pas à vivre du fruit de son travail, que tu vas faire que ça change aujourd'hui son regard sur les aides sociales.
Lutter contre les effets de seuil, rétablir une véritable progressivité des cotisations sociales, oui. Mais ne dites pas qu'il y en a trop et qu'on n'en profite
mais
pas.
Personne ne dit qu'il y en a
certains
trop.
Certains vont dire, j'ai pas d'enfant, pourquoi je paierais pour l'école publique, par exemple.
La personne te dit ça.
Parfois, j'ai eu des gens qui ont appelé, qui ont dit ça. Mais bref, c'est pas la majorité.
En tout cas, la personne te dit ça. Évidemment que c'est normal de cotiser pour les services publics et pour, même si t'as pas d'enfant, de cotiser pour l'école. Personne te dit ça. Il y a juste un moment où, en fait, le fossé se creuse. Ah,
c'est des gens qui
personne...
vont se plaindre de cotiser pour soigner les cancéreux fumeurs, par exemple.
Mais c'est pas ça. Je te dis qu'aujourd'hui, le fossé se creuse entre la personne qui n'arrive plus à vivre dignement de son travail et qui dit, mais moi, je comprends pas pourquoi j'ai pas accès à autant d'aide. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, et on peut le comprendre, ce ras-le-bol-là. Parce que, encore une fois, ce sont des gens qui travaillent, et quand tu n'arrives pas, je veux dire, à joindre les deux bouts, à pouvoir offrir un cinéma dans le mois, à ton enfant, parce que justement, alors que tu bosses, l'effet de seuil ne te permet pas, je veux dire, de toucher des aides. Et que si tu gagnais 50 euros de moins, finalement, t'en aurais 300 de plus à la fin du mois. Ça, c'est difficilement compréhensible, quand même. Juliette Briens, est-ce qu'il y a trop d'aides en France, ou est-ce que, finalement, le système est mal fait, et elles sont peut-être mal distribué, ou en tout cas, il faut tout remettre à plat.
Alors, évidemment qu'il y a trop d'aides en France. La première chose qu'il faut dire, c'est que le premier budget de l'État, la première dépense de l'État, c'est le remboursement de la dette. Donc déjà, on n'a plus les moyens. En fait, il faut simplement regarder la réalité d'en face. On nous le dit tous les jours, la France n'a plus les moyens, nous sommes endettés. Donc, je pense que ces 59% de Français-là, ils ne parlent pas évidemment de l'école publique ni de l'hôpital, et que tout le monde est pour avoir des services publics de bonne qualité, etc. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais évidemment qu'il y a trop d'aides sociales. On ne peut plus tenir ce modèle. On ne peut plus tenir le modèle de la retraite, puisqu'il n'y a pas assez ni de production, ni de dynamique, de décence, et puis
démographique,
merci, c'est le mot que je cherchais. Donc il faut juste simplement savoir ce que l'on veut et peut-être tout réformer. Par exemple, en fait, le problème de ces aides sociales, c'est qu'elles biaisent tous les marchés. À chaque fois qu'on
la biaise, c'est pas une aide sociale.
Par exemple, les APL qui n'ont qui n'ont fait que permettre aux propriétaires d'augmenter les loyers. Et maintenant, on est en pleine crise du logement. En fait, à chaque fois qu'on touche comme ça avec à des marchés avec des aides sociales, ça biaise les marchés et ça biaise le cours des choses. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les impôts et on donne des primes. Et c'est absolument ridicule de continuer sur cette voie. Ça ne marche pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tout bazarder, qu'on va bazarder la sécurité sociale et qu'on ne va pas payer pour le cancéreux.
Le cas très spécifique des APL, on les a baissés. Pour autant, l'immobilier n'est pas reparti. Hein.
Une fois que le bordel est partout, qu'on a mis des logements sociaux partout, etc., ça prend un peu de temps pour relancer la machine. Mais c'est bien les APL qui ont permis aux propriétaires d'augmenter leurs loyers.
Non, il n'y a pas que ça.
Alors, on est avec Alexandra. Et Alexandra, elle est assistante sociale depuis 5 ans à Paris. Bonjour Alexandra.
Oui, bonjour Estelle.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Donc, j'imagine que vous, en tant qu'assistante sociale, vous dites que non, il n'y a pas trop d'aide en France.
Je dis plutôt l'inverse. Il y en a, enfin, elles sont très bien, il y en a, mais il faudrait effectivement remanier tout ça, parce qu'effectivement, comme disait je ne sais plus qui sur le plateau, on arrive à contourner effectivement certaines aides. Des personnes qui sont au RSA actuellement, maintenant il y a un suivi au niveau de l'emploi avec Pôle emploi, France Travail maintenant, et pour ces personnes-là, pour contourner, on va essayer de trouver des raisons de santé pour passer sur une allocation adulte handicapé, où il y a même des au niveau de certaines mairies de la ville de Paris, où on arrive à faire des RSA santé, qu'ils appellent ça, où en gros ces personnes-là n'auront pas de suivi conjoint pour le travail. Donc en fait, c'est des personnes qui ne contribuent à rien, qui ne se mobilisent dans rien. Avant, on faisait vraiment de l'accompagnement social. Maintenant, on fait des ouvertures de droits.
Oui, et c'est vrai que c'est dommage qu'effectivement il n'y ait plus d'accompagnement social parce que c'est hyper important. Qu'est-ce qu'il y a?
Mais non, mais pourquoi vous le dénoncez pas si vous le dites ici avec nous en plateau?
Parce que c'est le système.
Elle n'aura jamais l'appui
de sa hiérarchie.
D'accord, mais elle est assistante sociale, elle pourrait le dénoncer.
Non, je reviens en fait sur le débat qu'il y a eu juste avant sur dire au travail ou pas. Dans la fonction publique et travaillant dans le social, on ne peut absolument pas avoir ce discours-là. C'est impossible.
Bah oui, évidemment.
Sinon, vous allez vous faire marcher.
Mais oui, parce que c'est à l'inverse de ce pourquoi elle travaille. Donc, bien sûr, mais merci en tout cas, Alexandra, d'avoir été avec nous. Mais vous, par exemple, quand même, juste une dernière question. Est-ce qu'il y a des aides qui, selon vous, devraient être supprimées ou réduites et d'autres auxquelles il ne faut absolument pas toucher?
Alors, supprimer, pas forcément, mais effectivement, moi, revenir sur l'AME, pour moi, cette aide, alors effectivement, il faut soigner les personnes étrangères, ça peut être le risque de faire d'autres maladies.
Bah oui, sinon ça nous coûterait encore plus cher.
Mais pour moi, c'est un non-sens. Cette aide est un non-sens dans le sens où on ouvre un droit pour des personnes. L'AME s'ouvre à partir de 3 mois en situation irrégulière dans le pays. Avant, on ne peut pas. Donc ça veut dire qu'en fait, on ouvre des droits à une personne qui n'a pas le droit d'être là et en plus, elle n'a pas le droit d'être là pendant 3 mois.
Oui, mais en fait, Alexandra, l'AME, c'est 1 milliard d'euros, mais si jamais, en fait, il n'y avait pas l'AME, ça coûterait encore plus cher à la France. Si,
les gens ont l'impression
si une personne, si une personne, par exemple, a la tuberculose ou une autre maladie infectieuse et que vous ne la soignez pas, là, vous risquez d'avoir énormément de cas.
On la soignera à l'hôpital. Je travaille à l'hôpital, donc.
Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On ne soigne pas les gens?
À l'hôpital, c'est ce qu'elle est en train de dire.
Et les personnes qui n'ont pas d'AME ont des factures à 200 000 euros qui sont prises en charge par l'hôpital. Donc en fait, la finalité reste la même.
Ouais, mais bon, donc si ça reste la même, c'est pas la peine de la supprimer.
On pourrait aussi faire en sorte que ces personnes ne soient pas illégalement sur notre territoire. Ça pourrait être
Tu peux remonter la rivière, effectivement, prévenir cette arrivée, ok. Mais une fois qu'ils sont là, je suis désolé, dire comme ça, de façon totalement logique et normale, supprimons l'AME et laissons mourir des gens, ou alors aux urgences.
Aux urgences, une fois que t'as
une belle tuberculose, là on va venir effectivement constater que tu es au bord de la mort, donc on va te soigner, mais toute la prévention, tous les rendez-vous médicaux, tout le traitement médical français, non, parce que ça coûte très cher et ça provoquerait la dette française. Coûte 1 milliard, l'AME.
Une fois que
ça
une belle tuberculose, il l'a pas attrapé.
Tu crois vraiment qu'en la supprimant,
tu vas sauver la France? Il a pas attrapé la tuberculose, hein. La tuberculose, il vient avec, hein. Donc, il peut directement à l'hôpital.
Non, mais
ça m'étonnerait qu'il l'ait chopé en France.
Non, mais ça, c'est pas le, c'est pas le débat. Et encore une fois, l'AME, c'est 1 milliard et notre dette, elle est bien plus importante que ça. Merci.
112% du PIB. Donc 1 milliard, c'est
merci
rien.
Merci, Alexandra, en tout cas, d'avoir été avec nous, notre invité sur ce débat. C'est Mathieu Plane, qui est économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour, Mathieu.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous dans Estelle Midi. Est-ce que ce serait une bonne chose, selon vous, de réduire les aides sociales en France ?
Alors, je pense qu'il faut d'abord cadrer un peu le débat. C'est qu'est-ce qu'on entend par aide sociale ?
Exactement.
On voit que ça part dans tous les sens, cette affaire-là, parce que, effectivement, la France se caractérise par un modèle social important, un des plus importants au monde, hein, ça c'est clair. Je regardais les chiffres, chaque année, les prestations sociales, c'est 850 milliards. Donc c'est beaucoup d'argent. C'est plus que la moitié de la dépense publique, hein, il faut avoir ça en tête. Mais les gros postes de dépenses, hein, si vous les regardez, il y a quasiment 700 milliards qui sont liés à la retraite,
ouais,
et à la santé. Après, je vous donne des ordres de grandeur. Hein, si on parle des aides sociales, mais qui sont celles pour plutôt lutter contre la pauvreté, type RSA et autres, on est sur 30 milliards. Vous voyez, c'est-à-dire que
c'est bien,
on a 700 milliards sur les retraites et la santé, qui sont des postes extrêmement importants et qui font vraiment la singularité française, hein, notamment. Et les aides sociales purement pour la pauvreté et ce qu'on appelle l'exclusion sociale, c'est de l'ordre de 30 milliards. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc quand on dit on va réduire les déficits par en réduisant les aides sociales, on pense tout de suite à ça, mais on voit qu'il y a quand même assez peu de grains à moudre. Et puis force est de constater, c'est que le RSA permet quand même à des gens de survivre. C'est pas non plus extrêmement important dans un pays où bon les inégalités n'ont pas explosé, mais il y a quand même des inégalités qui existent. Et vous avez même un autre paradoxe là-dedans. C'est qu'un tiers des gens qui ont droit au RSA n'ont pas recours au RSA.
Ils ne le demandent pas.
Donc vous voyez, y a pas, enfin, on voit des abus, mais en réalité, dans les chiffres, c'est quand même loin d'être si évident que ça. Et à côté de ça, vous avez autre chose, c'est-à-dire qu'on dit, je crois que 60% des Français veulent réduire les aides sociales. Mais de l'autre côté, si vous demandez aux Français s'ils sont attachés au modèle social français, ils le sont.
Oui.
Donc on est dans les paradoxes. Donc on pense qu'il y a des économies un peu magiques parce qu'il y a certainement certains abus. Mais ça reste quand même assez limité, ce que je veux dire. Le problème, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin d'un socle pour lutter contre la grande pauvreté, même s'il y a certains abus. Mais si on réduit massivement là-dessus, on va avoir beaucoup, beaucoup de problèmes et de grandes difficultés. Donc il faut faire quand même attention.
Et est-ce qu'on pourrait réduire certaines choses sur les dépenses sur la retraite, notamment ? Parce que c'est ce qui coûte le plus cher.
Alors, c'est en plein débat, parce qu'il y a d'ailleurs le Conseil d'orientation
des retraites. C'est la désindexation.
Qui rend aujourd'hui son rapport, qui dit que malgré la réforme menée, on va avoir un déficit quand même en 2030. Donc, se pose la question de savoir comment le combler. Et si vous regardez les choses, c'est est-ce qu'on continue encore à augmenter le report de l'âge légal ? Est-ce qu'on va au-delà des 64 ans ? Est-ce qu'on augmente les durées de cotisation ? Ou est-ce que finalement on réduit le niveau des pensions, c'est-à-dire qu'on les fait augmenter moins vite que l'inflation. Parce que ça fait beaucoup d'économies, ça. C'est-à-dire que si vous augmentez de 1 point de moins les retraites que l'inflation, vous gagnez 3 milliards directement. Donc c'est beaucoup, vu les masses. Mais le problème, c'est que vous réduisez le pouvoir d'achat des retraités. Donc il n'y a pas de formule magique. Mais c'est vrai que dans un moment où il faudra un effort de redressement des comptes publics, si jamais on se retrouve dans cette situation, bah cette piste-là, on peut difficilement l'écarter. Oui.
Il y a un peu la retraite à points aussi, quand même, qui n'est pas étudiée, mais qui permettrait de gagner un peu d'argent.
Elle a été étudiée, elle a été écartée. C'était effectivement sous Édouard Philippe qui avait eu la mise en place du transfert, justement, pour faire ce qu'on appelle une forme de retraite universelle, où chaque euro cotisé donne les mêmes droits. Oui, il y a des éléments de réflexion à avoir autour de tout ça, mais on voit que c'est il y a rarement des solutions évidentes, quoi.
Non, sinon elle serait déjà appliquée.
Enfin, tout le monde serait content.
J'ose l'espérer. Merci beaucoup Mathieu Plane d'avoir été avec nous. Vous avez des messages, Rémi.
Ouais, Thierry nous écrit réduction des aides sociales, d'accord, mais à partir du moment où une vraie réforme est engagée et aboutit à l'augmentation des salaires, moins de versement de prestations doit être égal à moins de prélèvements et donc à une augmentation des salaires.
Nicolas est avec nous, Nicolas qui nous appelle de La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône et qui est sans profession depuis 8 mois. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Nicolas, vous êtes sans profession, vous êtes au RSA ou vous êtes aujourd'hui au chômage ?
Non, je suis au RSA en fait. J'avais ma propre société il y a encore un an de ça, où je gagnais quasiment 4000 euros par mois et je me suis retrouvé avec des problèmes de santé qui m'ont mis au RSA parce que je n'ai pas le droit au chômage vu que j'étais en micro-entreprise et qu'on ne cotise pas beaucoup en micro-entreprise, voire cotise pas du tout. Donc du coup, j'ai pas eu le droit au chômage. Et en fait, oui, non, depuis tout à l'heure, j'entends le débat, et en fait, j'ai l'impression qu'on pense que les gens qui sont bénéficiaires des aides sociales en France gagnent 3000 euros par mois, sauf que c'est pas le cas, en fait. Actuellement, on me donne 500 euros par mois, c'est clairement pas avec ça qu'on vit. Tout à l'heure, j'entendais Juliette, il me semble, qui était vraiment opposée, enfin, qui voulait vraiment qu'on baisse les aides sociales en France, et j'espère pour elle qu'elle aura jamais de problème de santé, qu'elle se retrouvera jamais avec 500 euros par mois, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, elle paye très bien sa vie. Donc, on n'est pas, des gens qui profitons du système. Le monsieur voilà. juste avant l'a dit.
Je pense que moi et toutes les personnes qui se sont exprimées dans ce sondage, quand ils disent ça, ils ne pensent pas à vous. Vraiment.
Oui,
et je pense qu'il y a d'autres choses à aller chercher, d'autres choses à aller faire, que de s'attaquer directement aux plus pauvres et aux gens bénéficiaires du RSA. En revanche, j'aimerais effectivement qu'il y ait plus de contrôle et qu'on s'assure que ces aides déjà arrivent aux bonnes personnes.
Croyez pas, on est énormément contrôlés. C'est-à-dire que moi, j'ai des rendez-vous quasiment toutes les deux semaines avec Pôle emploi et le pôle d'insertion qui suit maintenant le côté RSA.
Ouais. Bah, surtout, moi, en fait, je vous crois quand vous me dites ça, mais j'ai tellement d'exemples de cas contraires que je...
Oui, mais le problème, c'est pas ça, c'est qu'en fait, ça dure 8 mois. Donc là, ça fait 8 mois que je suis au RSA. J'aurais pu rester que 2 mois au RSA. Pourquoi? Parce qu'en fait, à cause de mes problèmes de santé, je dois faire un dossier d'MDPH. Dossier d'MDPH met 6 mois minimum, et là, ça a mis 7 mois pour qu'on me dise qu'il faut une contre-expertise. Donc du coup, je suis rapidement essoufflé, je suis désolé, mais contre-expertise, donc du coup, ça repousse le truc encore de potentiellement 6 mois. Donc en fait, il y a d'autres leviers, ne serait-ce que le levier administratif en France qui est affreux, pour faire en sorte que les gens puissent rapidement retrouver un travail, puisque mon but n'est pas de rester au RSA en gagnant 500 euros par mois.
Pour clarifier, Nicolas, moi je suis pour qu'on aide évidemment les gens qui sont en incapacité de travailler, ça va de soi, je vous le dis.
Après, ce que disait encore une fois notre invité Mathieu Plane, qui est économiste, c'est que c'était pas sur les aides sociales comme le RSA qu'il fallait aller chercher évidemment des économies, mais plutôt sur les retraites, puisque c'est ce qui coûte le plus cher. Donc personne n'avait dans l'idée de réduire le RSA, évidemment, qui est de 532 euros. Alors c'est déjà très faible. En tout cas, on vous souhaite bon courage dans votre recherche d'emploi, Nicolas. Et puis merci beaucoup de nous avoir appelés. On va voir tout de suite ce que donne notre sondage. Rémi, on vous a posé la question. 60% des Français favorables à la réduction des aides sociales, d'accord, pas d'accord?
Eh ben, sur nos réseaux sociaux, c'est davantage. C'est 78% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux qui sont favorables.